Le ciel, par W. Trotter, édition 1921, quatrième enregistrement. Avertissement. Dans le texte, lorsque l'auteur de l'écrit a cité expressément la parole, celle-ci correspond à la version utilisée à son époque, fin du XIXe siècle. Ce qui explique ainsi des différences avec la version actuelle. Lorsque seule la référence biblique a été donnée, c'est la version Darby, plus récente, qui a été lue. Nous arrivons à l'Épître aux Hébreux qui nous arrêtera plus longtemps. L'expression d'appel céleste ne se rencontre qu'une seule fois dans l'Écriture, et c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1, que nous la trouvons. C'est pourquoi, frères saints, participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Mais voyons d'abord comment ce sujet est amené. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là nous a parlé dans le Fils. Chapitre 1, verset 1er. C'est ainsi que nous avons dès l'entrée un messager céleste, et ce messager est quelqu'un que Dieu a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Chapitre 1, versets 2 et 3. Tels sont les faits et les titres de celui par lequel Dieu nous a parlé en ces derniers jours. Mais il a accompli une œuvre et pris une place pour l'homme, aussi bien qu'il a apporté un message de Dieu. Après avoir fait, par lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Chapitre 1, verset 3. Ainsi, il est un sacrificateur céleste, aussi bien qu'un messager céleste, et c'est sous ces deux caractères qu'il nous est présenté dans tout le cours de cette épître. Sa divinité, sa qualité de fils, sa gloire comme créateur, son éternité et sa séance à la droite de la majesté sont établis dans ce premier chapitre, et sa supériorité sous tous ses rapports même au-dessus des anges, les créatures les plus élevées, est solennellement démontrée. C'est pourquoi il faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues. Chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. La loi avait été donnée par le moyen des anges. Acte 7, verset 53. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. Et néanmoins, aucun transgresseur ne pouvait échapper. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des miracles, et divers actes de puissance et des distributions de l'Esprit-Saint selon sa propre volonté. Chapitre 2, versets 3 et 4. Telle est l'introduction de l'Épître. Mais le contraste entre Christ et les anges amène tout naturellement un autre sujet. Savoir que la terre à venir, la terre milléniale, ne sera pas soumise aux anges, mais à l'homme, c'est-à-dire à Christ et à ceux d'entre les hommes qui lui seront associés dans cette dignité. Pour nous associer ainsi à lui-même, lui à qui toutes ces gloires énumérées dans le premier chapitre appartiennent, et qui, par conséquent, est tellement élevé au-dessus des anges, il a dû pour un peu de temps être fait inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tout, chapitre 2, verset 9. Le fait est que, soit l'héritage, soit ceux qui étaient prédestinés à devenir cohéritiers, étaient tous les deux, à cause du juste jugement de Dieu sur le péché, sous le pouvoir de l'adversaire et usurpateur qui a le pouvoir de la mort, pour prendre possession lui-même de l'héritage, et s'associer les cohéritiers pour en jouir avec lui, Christ avait à subir en expiation le jugement de Dieu sur le péché, pour ainsi rencontrer et vaincre l'ennemi. Ainsi, il est devenu non seulement sacrificateur et messager, mais aussi capitaine de notre salut, quoique, au fond, cette dernière fonction soit renfermée dans celle de messager, puisqu'un messager peut être envoyé aussi bien pour accomplir une œuvre que pour faire une communication. Ainsi Josué, qui conduisit victorieusement les Israélites en Canaan, était apôtre ou envoyé, aussi bien que Moïse qui leur donna la loi, et le même Moïse les conduisit hors d'Égypte et à travers le désert. Voilà comment il se fait qu'il n'ait parlé de Jésus que comme envoyé et souverain sacrificateur, Moïse étant le type du premier et Aaron le second. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Chapitre 2, verset 10. Et ce n'est pas seulement comme prince de notre salut qu'il a été rendu parfait par les souffrances, c'est aussi comme souverain sacrificateur. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car, en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Chapitre 2, versets 17 et 18. Le commencement du chapitre 3 tire la conséquence de tout ce qui précède. C'est pourquoi, frères saints, participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession, Jésus. Verset 1. Oui, frères saints, frères de Jésus, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
Chapitre 2, verset 11. Ce n'est pas parce que Christ a partagé notre nature que cela est dit, mais parce que, par la résurrection, il nous a fait participants de la sienne. Ce n'est pas l'unité du corps qui est enseignée ici, comme dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, mais c'est l'unité de famille, Christ, le Fils de Dieu, reconnaissant pour frères tous ses fils de Dieu qui, par grâce, ont été rendus participants de sa nature, et qui, par lui, le capitaine de leur salut, ont été, par le moyen de ses souffrances, placés dans la gloire. Saints frères, appelés de Dieu leur Père, qui leur parle par son Fils du ciel, pour qu'ils trouvent dans le ciel déjà leur lieu de culte actuel, puisque leur souverain sacrificateur y est, et leur future demeure, puisque Christ y est déjà entré comme avant-coureur, et qu'il ne manquera pas de les y conduire à la fin de leur pèlerinage à travers le désert. En conséquence,
frères saints, participants de l'appel céleste, considérez celui qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession, Christ Jésus.
Oui, c'est en le considérant que nous apprendrons quelle est notre vocation et dans quel esprit nous avons à marcher en attendant ici-bas. Mes lecteurs savent sans doute que, dans cette épître, le ciel est représenté sous deux types. Le pays de Canaan, dans lequel nous n'entrons qu'en traversant le désert, et le sanctuaire auquel nous n'avons accès que par le sacrifice et la sacrificature. Les chapitres 3 et 4 jusqu'au verset 13 et une partie du chapitre 6 s'occupe du premier type. Le reste de l'épître jusqu'au verset 23 du chapitre 10 du dernier. La fin renferme des applications pratiques qui découlent des deux. Quant à ces deux représentations du ciel et les types y correspondant de notre Seigneur Jésus, savoir Moïse, Josué et Aaron, l'instruction qui nous est donnée l'est autant par contraste que par comparaison, même davantage. Moïse fut fidèle comme serviteur dans toute sa maison. Christ l'a été comme fils sur sa propre maison. Josué ne leur a pas donné le repos, car sans cela il n'aurait plus parlé de notre jour. Dans le passage d'Israël d'Égypte en Canaan, il n'y eut pas d'entrée anticipée du chef, pendant que le reste du peuple était encore éprouvé dans le désert. Quant à nous, nous voyons depuis ici Jésus couronné de gloire et d'honneur, tandis qu'on ne voit pas encore que toute chose lui soit soumise, et que nous sommes encore dans le désert. Nous saisissons l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre dans l'intérieur du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous. Chapitre 6, versets 18 à 20. La grande exhortation dans cette partie de l'Épître est que nous retenions ferme, jusqu'à la fin, le principe de notre ferme attente. Chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Ceux dont les corps tombèrent dans le désert périrent parce qu'ils pensèrent que Dieu pouvait bien les faire sortir d'Égypte, mais ne pouvait pas les faire entrer dans la terre promise. Les seuls qui entrèrent furent Josué et Caleb, qui avaient confiance en Dieu qu'il les y ferait entrer, puis les petits-enfants dont les incrédules avaient dit qu'ils seraient en proie. Que Dieu bien-aimé nous donne de connaître ses voies de manière à ne jamais séparer la sortie d'Égypte de l'entrée en Canaan. L'incrédulité perd, comme dans le cas d'Ésaü, la bénédiction et le droit d'aînesse qu'elle profane. Elle attire sur elle la destruction et déshonore Dieu. Que nous apprenions cette leçon solennelle et salutaire, et que nous éprouvions la pleine assurance qu'il y a dans ses paroles.
Il reste un repos sabbatique pour le peuple de Dieu.
Chapitre 4, verset 9. C'est dans ce repos que nous entrons. Comme tout le passage d'Israël à travers le désert peut être appelé son entrée en Canaan, de même tout notre pèlerinage dans ce monde, depuis que nous avons reçu la bonne nouvelle, n'est qu'une entrée dans notre patrie céleste.
Car nous entrons dans le repos, nous qui avons cru.
Verset 3. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Verset 2.
Car nous aussi nous avons été évangélisés de même que ceux-là, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent.
Quelle fut cette bonne nouvelle annoncée aux Israélites? Est-ce que Dieu ferait sortir son peuple d'Égypte pour le laisser périr dans le désert? Assurément non, mais qu'il l'introduirait dans le pays qu'il avait promis à leur père. Et Dieu les y a fait entrer. Caleb et Josué y sont entrés, ainsi que ces petits qui n'avaient pas montré leur incrédulité. Il n'y a eu d'exclus que ceux qui, par incrédulité, ont refusé d'y entrer. Et maintenant, quelle est la bonne nouvelle qui nous est annoncée? Est-ce que Dieu nous a rachetés par le précieux sang de Christ pour nous laisser périr en chemin? Assurément non, mais que nous entrerons dans son repos et serons dans sa présence et sa gloire pour toujours. Ainsi donc, nous qui avons cru, entrons dans le repos. Dieu dans sa grâce nous y a appelés. Nous qui avons entendu l'appel et qui avons répondu, cheminons à travers les contrariétés, les tribulations et les combats vers ce repos qui reste pour le peuple de Dieu.
Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là.
Verset 11. Ne nous décourageons jamais. ne désespérons jamais, ne trouvons jamais le chemin ni trop long ni trop difficile, ne doutons jamais de notre arrivée. Ce fut la parfaite certitude de Caleb d'entrer dans le pays et de le posséder, qui le soutint pendant les 40 ans qu'il eut à cheminer dans le désert avec l'incrédulité de ses frères. C'est elle qui lui donna le courage, à 85 ans, d'attaquer et de vaincre les puissants fils d'Anak, et de prendre possession de cette véritable forteresse qui, 45 ans auparavant, lui avait été assignée par Moïse. Efforçons-nous, avec une égale confiance et une égale constance, d'entrer dans ce repos dont la Canaan terrestre n'était qu'une faible et imparfaite image. Le ciel, comme notre lieu de culte actuel, en contraste avec le tabernacle terrestre des Juifs, est peut-être un sujet encore plus saillant dans cette épître que celui que nous venons de toucher. Mais quoique le ciel, ainsi que le sacrifice et la sacrificature de Christ, soient unis en opposition avec le tabernacle terrestre, ses sacrifices et sa sacrificature, le dernier n'en est pas moins déclaré avoir été un type du premier. Il y a ceux qui offrent des offrandes selon la loi, lesquelles servent la figure et l'ombre des choses célestes. Comme Moïse, lorsqu'il devait construire le tabernacle, « Prends garde, dit-il, à faire toutes les choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Chapitre 8, versets 4 et 5. Il était nécessaire que les symboles des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés par de tels moyens, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de plus excellentes victimes que celles-là. Chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Pendant que le premier tabernacle était encore debout, c'était là une figure pour le temps présent. Versets 8 et 9. Le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte. Le tabernacle juif, avec ses sacrifices et sa sacrificature, est donc à la fois une figure pour expliquer et un exemple pour faire valoir, par contraste, les réalités divines dans lesquelles nous sommes introduits. Nous avons un sacrifice qui a ôté le péché une fois pour toutes, et qui a rendu sa répétition aussi inutile que impossible. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui est entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Il ne s'est pas attribué lui-même cet honneur, mais il a été appelé de Dieu qui lui dit « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Chapitre 5, verset 5, psaume 2, verset 7. Proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est réellement ce que Melchisédek n'était que typiquement et selon la signification de son nom. Car son nom signifie « roi de justice » et ensuite « roi de Salem », c'est-à-dire « roi de paix ». Chapitre 7, verset 2. Voilà ce que notre souverain sacrificateur est réellement, et quoiqu'il n'ait pas encore été manifesté en cette qualité, il ne la possède pas moins actuellement. Quant à sa sacrificature, Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Chapitre 7, verset 3. De même, celui qu'il représente n'a, dans sa sacrificature, ni commencement ni fin, mais il est souverain sacrificateur éternellement. Chapitre 6, verset 20. Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a pas de successeur dans sa sacrificature, comme Aaron et ses fils en avaient, parce qu'il est devenu sacrificateur non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. chapitre 7, verset 16. Il y a eu beaucoup de sacrificateurs parce que, à cause de la mort, ils ne pouvaient durer. Mais Christ, qui ne meurt point, a une sacrificature sans fin, et il est à même de sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, voyant en lui un sacrificateur toujours vivant pour intercéder pour eux.
Un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même.
Il est fils consommé pour l'éternité. Chapitre 7, versets 26 à 28. Arrivé à ce point, l'écrivain s'arrête pour résumer ce qu'il a dit.
Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non pas l'homme.
Chapitre 8, versets 1 et 2.
Puis il montre que Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est aussi médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses.
Verset 6. Puis il est parlé du sanctuaire terrestre avec ses ordonnances, du premier tabernacle, puis du second, dans lequel le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, avec du sang, parce que le chemin du sanctuaire n'était pas encore manifesté. Chapitre 9, verset 8.
L'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place.
Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, est entré une seule fois dans le sanctuaire, non au moyen du sang des boucs et des veaux, mais au moyen de son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce n'est pas dans un sanctuaire fait par des mains, image correspondante au véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu pour nous. Chapitre 9, versets 11 et 12.
Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Chapitre 9, verset 24.
Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Et son entrée là ne se borne pas à lui, en sorte qu'un voile le sépare de la place où les sacrificateurs entrent tous les jours. Non, ce voile, qui jadis séparait en deux le tabernacle juif, était un type de la chair de Christ, et, quand le vrai voile fut déchiré sur la croix, le voile typique fut déchiré du haut en bas. Remarquez que ce fut du haut en bas. Ce ne fut pas du bas en haut, comme si un homme sur la terre l'avait fait, mais du haut en bas, comme une œuvre du ciel.
Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure. Retenons la confession de l'espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle.
Chapitre 10, versets 19 à 23. Le reste de l'épître est rempli d'exhortations à la foi, à l'espérance et à la patience, basées sur ce qui précède. Il y a quelques points qu'il importe de signaler ici. Les frères doivent se rappeler une période passée de leur histoire.
Souvenez-vous des jours précédents dans lesquels, après avoir été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance.
Chapitre 10, verset 32. Ils n'avaient pas seulement été persécutés pour leur propre profession de christianisme, mais ils avaient aussi volontairement pris part aux afflictions des autres. Quel était le secret qui les mettait à même d'endurer des souffrances pour Christ? Voici la réponse.
Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents.
Chapitre 10, verset 34. La certitude du ciel nous met en état de renoncer à la terre, et même de le faire avec joie. Voilà la confiance que les Hébreux devaient retenir fermement, et elle a une grande récompense. Il faut de la patience pour que, après avoir fait la volonté de Dieu, nous recevions la promesse. Mais la promesse est immanquable, et son accomplissement approche.
Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Or le juste vivra de foi, et, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme.
Chapitre 10, versets 37 à 39. Ceci conduit l'écrivain à parler, dans le chapitre 11e, de la foi en elle-même et à en donner de nombreux exemples. Ce qui fait l'objet de la foi, ce sont les choses qu'on ne voit point. Et néanmoins, la foi les voit et y compte avec assurance en se fondant sur le témoignage de Dieu. C'est ainsi que les choses qu'on ne voit point reçoivent une démonstration et celles qu'on espère acquièrent une substance. La foi, comme Dieu, en qui elle croit, considère les choses qui ne sont pas encore comme si elles existaient déjà. Par la foi, Abraham alla habiter dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, logeant sous des tentes, car il attendait la ville qui a les fondements, dont Dieu est l'architecte et le créateur. Chapitre 11, versets 9 et 10.
Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur.
Quel témoignage simple et cependant précieux est donné ici à ces anciens héritiers des promesses célestes.
Tous ceux-ci moururent dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre.
Chapitre 11, verset 13. Et comme Dieu apprécie et honore leur foi.
Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et, en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
Chapitre 11, versets 14 à 16.
que l'on entende par là que Dieu n'avait point honte d'être appelé Dieu par ceux qui regardaient par-dessus tout ce qu'il y avait sur la terre vers une ville qui était dans le ciel, ou qu'on entende par là que Dieu n'avait point honte d'être appelé Dieu par ceux à qui il avait destiné une ville dans le ciel. Dans les deux cas, quel précieux et quel encourageant privilège!
Par la foi, Moïse estima l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte.
Chapitre 11, verset 26. Par la foi encore,
d'autres furent torturés, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection.
Chapitre 11, verset 35. Le monde, il est vrai, ne les estima dignes que de moquerie, de verges, de liens et de prisons.
Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent tués par l'épée, ils errèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout.
Chapitre 11, verset 37. Mais comment Dieu les apprécie-t-il? Peu de mots nous le diront.
Eux, dont le monde n'était pas digne.
Chapitre 11, verset 38. Et si Dieu a pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne fussent pas consommés sans nous, dans cette résurrection à laquelle ils regardaient, et dans l'espérance de laquelle ils ont souffert et sont morts, ne devrions-nous pas, stimulés par de meilleures espérances, les suivre et même les dépasser dans cette carrière de renoncement au monde et à nous-mêmes?
C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui enveloppe facilement, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
Chapitre 12, versets 1 et 2. Car il est encore le meilleur exemple de cette foi patiente et victorieuse. Il est le commencement et la fin. Il a parcouru toute la course, il a atteint le but et remporté le prix. Les témoins dont il est parlé au chapitre 11e attendent encore la résurrection. Mais lui,
en vue de la joie qui était devant lui, a enduré la croix ayant méprisé la honte et s'est assise à la droite du trône de Dieu.
Chapitre 12, verset 2. Mystère des mystères. Celui dont la gloire est dépeinte dans le premier chapitre de cette épître, celui qui est descendu si bas que d'offrir, dans les jours de sa chair, avec cri véhément et avec larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, celui-là est aussi descendu si bas que d'agir sur la terre en vue de la joie qui était devant lui, car,
en vue de la joie qui était devant lui, il endura la croix.
Oh, regardons constamment à lui. En regardant à lui, nous apprendrons ce qu'est la vocation céleste et serons attirés en haut par la force de son exemple et par l'attraction de son amour. Vers la fin du chapitre 12, nous avons un résumé de tout ce à quoi la grâce de Dieu a conduit les chrétiens, par opposition à Sinaï avec ses terreurs et sa loi.
Vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, et à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux, et à Dieu juge de tous, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel.
Chapitre 12, versets 22 à 24. Quelle énumération! Et comme toutes ces choses sont immuables! Une fois Dieu a parlé sur la terre, et alors sa voix a ébranlé la terre. Maintenant, il parle des cieux et promet d'ébranler encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Toutes les choses qui ont été faites seront ébranlées,
afin que celles qui sont immuables demeurent.
Chapitre 12, verset 27. Est-ce qu'une seule des choses auxquelles nous sommes arrivés peut être ébranlée? Non.
C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte.
Chapitre 12, verset 28. Mais n'oublions jamais que ce royaume qui ne peut être ébranlé est au-dessus de cette terre et de tout ce qui y appartient. S'il y avait eu sur la terre une place que Dieu eût pu reconnaître, ce ne pouvait être que Jérusalem, où il avait placé son nom, où était son sanctuaire, et où se célébrait son culte. Mais Jésus,
afin qu'il sanctifiât le peuple par son sang, a souffert hors de la porte.
Chapitre 13, verset 12. Et voici la conséquence à en tirer.
Sortons donc vers lui hors du camp, portant son opprobre.
Hébreux 13, verset 13. Le sang de ce sacrifice pour le péché a été porté non dans un sanctuaire terrestre, mais dans le ciel même, par Jésus ressuscité. Et il y établit, d'une manière immuable et éternelle, le pardon et l'acceptation de tout ce qui, devant Dieu, est sous l'efficace de ce sang. Tout le reste doit être ébranlé, tout le reste doit périr. Suivons donc Jésus, portant son opprobre,
car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir.
Chapitre 13, verset 14. Oh, que nous la cherchions avec un zèle sérieux, avec une foi patiente, et avec une marche ferme et infatigable. Dans cette ville, nous trouverons que, quoi qu'on nous en ait dit par anticipation,
on ne nous en avait pas rapporté la moitié.
1 Roi 10, verset 7, 2 Chroniques 9, verset 6. Dans l'épître de Jacques, nous trouvons
la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Chapitre 1, verset 12. En ouvrant la première épître de Pierre, l'impression que nous recevons est que l'apôtre avait, par la foi, envisagé sa patrie céleste, contemplant ses diverses gloires et se réjouissant dans l'espérance de ses bénédictions infinies, jusqu'à ce qu'enfin son cœur, plein d'émotion et de bonheur, déborde par les paroles qui commencent cette épître.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps.
Chapitre 1, verset 3 à 5. Ici, l'héritage est dans le ciel, et la résurrection de Jésus-Christ est ce par quoi nous avons été, par la grâce de Dieu, engendrés de nouveau pour une espérance vivante de l'héritage. Et quel héritage? Un héritage incorruptible, sans souillure et inflétrissable. Et comment nous est-il assuré? Il est conservé dans les cieux pour nous, tandis que nous, par la puissance de Dieu, sommes conservés pour lui pendant que nous cheminons ici-bas. L'influence de cette espérance était si puissante sur ceux à qui Pierre écrivait qu'ils s'y réjouissaient malgré le poids des épreuves auxquelles ils étaient exposés. Mais cette épreuve de leur foi était précieuse pour tourner à louange, à honneur et à gloire en la révélation de Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 7.
Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ.
Et comme ce qui est dit de leur bonheur et de leur joie montre ce que sera leur et notre félicité future, lequel vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore.
Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse.
Chapitre 1, verset 8. Si la foi peut donner une telle chaleur d'affection et de telles profondeurs de sainte joie en Christ, que sera-ce de le voir et de converser avec lui face à face? Aussi, quelle exhortation!
C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée en la révélation de Jésus-Christ.
Chapitre 1, verset 13. Et si notre joie actuelle est en Christ, et notre position celle d'attendre de le voir dans la gloire, combien est naturelle l'exhortation de l'apôtre.
Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance, désirez ardemment le pur lait de la parole.
Chapitre 2, verset 1 et 2. Puis, plus bas.
Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et comme forains, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Chapitre 2, verset 11. C'est cette espérance d'un héritage dans le ciel qui nous rend étrangers et pèlerins sur la terre, et plus aussi nous maintenons notre caractère d'étranger et de pèlerin, plus cette espérance se développera dans nos cœurs. Et si nous avons à supporter les tentations jusqu'à être comme dans une fournaise, chapitre 4, verset 12, nous ne serons pas étonnés, comme s'il nous arrivait quelque chose d'étrange. Et même alors l'apôtre dit,
selon que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport.
Verset 13. Pierre, ancien lui-même, se présente comme un témoin des souffrances du Christ, et comme ayant part aussi à la gloire qui doit être révélée, et il exhorte en conséquence ceux qui sont anciens avec lui à paître le troupeau de Dieu. Et voici le motif qu'il leur donne.
Lorsque le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire.
Chapitre 5, verset 4. Et, en priant pour ceux à qui il écrit, il appelle Dieu,
le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus.
Chapitre 5, verset 10. Ailleurs, il est dit que
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Romains 5, verset 2. Ailleurs, nous sommes appelés
héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ.
Romains 8, verset 17. Ailleurs encore, il est dit que
Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire.
1 Thessaloniciens 2, verset 12. Ici, enfin, c'est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus. Nous n'avons pas, il est vrai, l'expression de notre vocation céleste, mais assurément c'est notre vocation céleste qui est décrite ainsi. Dans la seconde épître de Pierre, nous trouvons un puissant encouragement à l'affermissement dans la foi.
Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée.
Chapitre 1, verset 11. Puis vient l'allusion à la transfiguration sur la sainte montagne dont nous nous sommes déjà occupés à l'occasion des évangiles. Enfin, vers la fin de cette épître, l'apôtre parle de la destruction des cieux et de la terre d'à présent, pour être remplacé par de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite.
Chapitre 3, verset 13. Dans les cieux et cette terre post-milléniale, le mal ne trouvera plus de place, car toutes choses auront été faites nouvelles et seront devenues le séjour de la justice la plus parfaite. La première épître de Jean, comme son évangile, est essentiellement céleste dans le caractère des vérités qu'elle présente.
mais c'est le déploiement de la vie céleste ici-bas, plutôt que la description de ce qu'elle sera en haut. L'Évangile nous donne la manifestation de la vie éternelle en celui duquel il est dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes » Jean 1, verset 4. L'Épître nous la présente dans ses divers caractères et ses diverses manifestations chez les saints. Elle commence, il est vrai, par nous rappeler sa parfaite manifestation en Jésus, ce que Jean avait entendu, ce qu'il avait vu de ses yeux, ce qu'il avait contemplé et que ses mains avaient touché, concernant la parole de la vie, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Mais tout cela, l'apôtre nous l'annonce afin que nous ayons communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 3. Tout cela est céleste, mais c'est le déploiement de la vie céleste sur la terre, au milieu des circonstances qui nous entourent, plutôt que notre joie quand ce qui est en partie aura été abrogé, et que la perfection sera venue. Cependant, ce côté n'est pas omis complètement. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, quand il aura été manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Chapitre 3, verset 2. Dans quelle parfaite harmonie cela est avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voir Christ comme il est, lui être semblable, c'est ce qui nous attend, quoique cela ne soit pas encore manifesté. Mais nous en sommes néanmoins parfaitement sûrs. Nous savons. La raison humaine et l'incrédulité du cœur diront que, être sûr du ciel, cela nous rendra peu soucieux du chemin que nous avons à faire pour y arriver. Mais comment, au contraire, l'apôtre dit-il que cette certitude agit sur le cœur? Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Chapitre 3, verset 3. Ce n'est qu'à une nouvelle et céleste nature que la certitude d'être avec Christ, et comme lui, peut offrir de la joie. Et si, par grâce, je suis maintenant participant d'une nature qui se réjouit en espérance de ces choses, comme de la consommation de mon bonheur, il est impossible que je ne cherche pas déjà actuellement à ressembler à celui à qui j'espère ressembler complètement quand il apparaîtra. Quel est le saint qui ne peut dire, dans la plus grande lumière de nos espérances actuelles, ce que le psalmiste a dit dans les temps de l'Ancien Testament? Moi, je verrai ta face en justice. Quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. Psaume 17, verset 15. La prière qui termine l'épître de Jude nous donne une vue délicieuse de la félicité future des saints. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, majesté, force et pouvoir dès avant tout siècle, et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Verset 25. Quelle vue de Dieu et de notre bonheur à venir pour ceux qui, dans ces derniers jours, ont à frayer leur chemin à travers toutes les embûches que l'apostasie tend au pas de la foi. Ce chemin, grâce à Dieu, est aussi droit qu'il l'a jamais été, mais les chemins de côté, à droite et à gauche, sont si multipliés et si séduisants qu'il est bien précieux et encourageant pour le cœur de savoir que nous sommes remis aux soins de celui qui peut nous garder de toute chute et nous conduire droit au but, pour nous présenter devant sa gloire sans défaut et dans l'allégresse, et nos cœurs répondront avec action de grâce, à lui soit gloire et majesté, pouvoir et autorité, et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Il nous reste l'Apocalypse, livre qui, à lui seul, pour ce qui concerne l'objet qui nous occupe, pourrait facilement donner matière à un article aussi long que celui que nous sommes sur le point de terminer. Le second et le troisième chapitre nous offrent sept expressions différentes de la gloire céleste pour l'encouragement de ceux qui, au milieu du déclin et de l'apostasie, cherchent à vaincre par la force de la grâce. Manger de l'arbre de la vie qui est au milieu du paradis de Dieu, recevoir la couronne de vie et n'avoir rien à souffrir de la seconde mort, manger de la manne cachée et recevoir un caillou blanc, et sur le caillou un nouveau nom écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit, recevoir autorité sur les nations comme Christ aussi l'a reçu de la part de son Père, et avoir l'étoile du matin, marcher avec Christ en vêtements blancs, et, au lieu de voir effacer son nom du livre de vie, l'entendre confesser devant le Père et devant ses anges, être gardé de l'heure de la tentation qui doit venir sur toute la terre, devenir une colonne dans le temple de Dieu pour n'en plus jamais sortir, et avoir écrit sur soi le nom de Dieu et le nom de la ville de Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et le nouveau nom de Christ. Enfin, s'asseoir avec Christ sur son trône, comme il s'est assis avec son Père sur son trône. Telles sont les promesses de repos, de communion, de triomphe, de bénédiction, de sécurité, de stabilité et de gloire faites à celui qui vaincra. Après cela, une porte s'ouvre dans le ciel, et le prophète de Patmos nous raconte ce qu'il y a contemplé, et le cours des événements sur la terre qu'il voit se dérouler depuis cette position céleste. Un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis dessus, et celui qui y était assis était d'un aspect semblable au jaspe et à la pierre sardienne. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et sur ces trônes étaient 24 anciens en vêtements blancs, et des couronnes d'or sur leur tête. Il y avait encore un arc-en-ciel autour du trône, et devant le trône, il y avait 7 flambeaux de feu ardent, qui sont les 7 esprits de Dieu, et une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu, et autour du trône étaient 4 êtres vivants qui ne cessaient ni jour ni nuit de dire « Saint, 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 Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. » Chapitre 4, verset 8. Et quand ils donnaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, les 24 anciens se prosternaient devant lui et l'adoraient en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Verset 11. Puis Jean voit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre scellé de 7 sceaux, et un ange demande: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Chapitre 5, verset 2. Mais nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean, quoique en esprit dans le ciel, se met à pleurer. Mais ses larmes sont séchées quand il regarde, et voici, au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vient et prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et ceci devient l'occasion d'une nouvelle adoration. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent devant l'agneau et chantent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu,
par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Chapitre 5, versets 9 et 10.
Et à ce cœur formé par ceux qui sont le plus rapprochés du trône, des myriades de myriades d'anges répondent.
« Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. »
Chapitre 5, verset 12.
Et même, comme par anticipation, toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et ce qui est sur la mer, et tout ce qui est en ces choses répondent.
À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et la force, au siècle des siècles.
Chapitre 5, verset 13.
Et l'harmonie des cantiques célestes, entonnée auprès du trône, après avoir passé de bouche en bouche et d'écho en écho jusqu'aux dernières limites de la création rachetée, retourne en chœur au centre d'où elle était partie.
Et les quatre animaux disaient « Amen ». Et les 24 anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage.
Chapitre 5, verset 14.
J'ai cité presque textuellement parce que nulle part, comme ici, le ciel nous est présenté comme un cœur d'adoration et d'action de grâce. Dans le reste de l'Apocalypse, le ciel est plutôt la place d'où sortent les jugements par lesquels les droits de Christ sont revendiqués et par lesquels les corrupteurs et les destructeurs de la terre sont eux-mêmes détruits. Il est le lieu d'où Christ lui-même monte sur un cheval blanc, et les armées qui sont dans le ciel, les saints qui y ont été préalablement recueillis, et qui y sont vus de temps en temps, du chapitre 4 au chapitre 19, sortent pour la bataille au grand jour du Dieu Tout-Puissant. Un événement raconté dans le chapitre 19 ne doit pas être passé sous silence ici. Ce sont les noces de l'agneau. Fiancé à Christ sur la terre, comme une vierge chaste, sachant par la foi qu'elle est l'objet des affections de son cœur, nourrie et chérie par lui selon que nous le dit le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, l'Église n'est pourtant pas encore la femme de l'agneau, avant l'époque signalée dans le chapitre de l'Apocalypse. Elle l'est maintenant en expectative, elle est préparée et formée par les soins du Saint-Esprit. Mais c'est seulement lorsqu'elle aura été complétée et rendue parfaite dans la gloire qu'arrivera ce qui est raconté ici.
Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. »
Chapitre 19, versets 6 à 8.
Oui, c'est alors que les affections de Christ et de son épouse non seulement recevront leur parfaite et mutuelle satisfaction, mais les noces, dans lesquelles cela sera consommé, seront publiquement solennisées et donneront lieu à ces éclats de louanges et d'adoration dont il semble, quand on lit la prophétie, qu'on entend résonner toute l'étendue des cieux. Alors une voix était sortie du trône disant
« Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands. »
Chapitre 19, verset 5.
Et après la consommation du mariage, nous trouvons ces paroles
« Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. » Ce sont là les véritables paroles de Dieu.
Chapitre 19, verset 9. Le chapitre 20 nous donne le règne de Christ et de tous ceux qui auront part à la première résurrection.
Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans.
Chapitre 20, verset 6. À la fin de cette période, quand Satan aura été délié pour un peu de temps pour susciter la dernière révolte contre Dieu, et qu'un dernier jugement aura écrasé lui et ceux qu'il avait séduits, quand le jugement des morts aura eu lieu devant le grand trône blanc, et que le ciel et la terre se seront enfuis devant la face de celui qui est assis sur ce trône, et que Jean aura vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, dans laquelle il n'y a pas de mer, alors il verra aussi la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Chapitre 21, verset 2. Le laps de 1000 ans n'a donc rien changé dans le caractère d'épouse de l'Église. Le dernier coup d'œil que la parole inspirée jette sur l'Église, quand elle entre dans cette éternité, qui succède non seulement à son pèlerinage sur la terre, mais même à l'économie milléniale, à la période du royaume, lequel, à la fin, est remis à Dieu le Père, pour que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit tout et en tous. Le dernier coup d'œil jeté sur l'Église nous la montre encore dans sa pleine gloire d'épouse. Jean voit la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et il semble que, même dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, qui succèdent à l'époque milléniale, l'Église conservera encore une place particulière. Déjà aujourd'hui, elle est l'habitation de Dieu par l'Esprit. Elle gardera alors ce haut et saint caractère.
Et jouis une grande voix venant du ciel disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. »
Chapitre 21, verset 3. Puis les heureux effets de cette habitation de Dieu parmi les hommes, l'Église étant à ce qu'il paraît son tabernacle, sont décrits.
Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.
Chapitre 21, verset 4. La part des méchants sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Toutes choses seront faites nouvelles, et toute cette nouvelle création deviendra l'héritage de Christ et de ceux qui auront vaincu.
Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils.
Chapitre 21, verset 7. Nous avons dit ci-devant que le dernier coup d'œil que l'Écriture jette sur l'Église est placé au commencement de l'âge éternel, et qu'elle conserve toujours son caractère et sa gloire d'épouse. Nous avons d'elle encore une autre image, non pas postérieure, mais différente. C'est une description détaillée et symbolique de sa gloire en connexion avec la terre milléniale. Néanmoins, tout ce qui est essentiel en elle demeurera éternellement. Et quel est le chrétien, quel que soit le degré de son intelligence, quant aux symboles employés ici, dont le cœur n'a pas été réchauffé et rempli de joie et d'espérance, quand il a lu la description de cette cité céleste? Cette ville d'or pur, ses murailles de pierres précieuses, ses portes de perles ne laissent-elles pas dans notre âme une impression de magnificence et de gloire qu'aucun langage humain ne peut exprimer? C'est une ville, c'est-à-dire que notre position d'étrangers et de pèlerins sera échangée contre un établissement fixe et un repos éternel. Ce ne sera plus un petit troupeau, Luc 12, verset 32, comme les enfants de Dieu l'ont été dans toutes les économies successives, mais une grande ville, Apocalypse 21, verset 10, Luc 12, verset 32.
Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
Apocalypse 21, verset 10.
Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu.
Cette ville sera sainte. Son nom sera Jérusalem. Elle descendra du ciel d'auprès de Dieu. Elle aura la gloire de Dieu. Apocalypse 21, verset 11.
Ayant la gloire de Dieu, son luminaire était semblable à une pierre précieuse comme à une pierre de jaspe cristallin.
Ce sera l'épouse de l'agneau, la femme. Chapitre 21, verset 9.
Et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. »
Il y aura l'accomplissement et la plénitude, au-delà de tout ce que l'espérance ou la foi peuvent concevoir de ces mots, héritier de Dieu, Galates 4, verset 7.
De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier aussi par Dieu,
appelé à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, verset 12.
Pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire.
Appelez à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus. 1 Pierre 5, verset 10.
Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable.
Celui qui était vu assis sur le trône, Apocalypse chapitre 4, était d'un aspect semblable au jaspe et à la pierre sardienne. Et il est dit de la ville que
son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin, et qu'elle a la gloire de Dieu.
Chapitre 21, verset 11. Rendu ainsi conforme à la gloire de Dieu, et devenu le vase où cette gloire se déploie, la ville n'a pas de temple.
Car le Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple.
Chapitre 21, verset 22. Elle n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y luire.
Car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe.
Chapitre 21, verset 23. Les nations de ceux qui sont sauvés marchent à sa lumière, et les rois de la terre y apportent leur gloire et leur tribut, car elle éclairera la terre et accomplira ainsi la prophétie touchant la Jérusalem terrestre.
Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi.
Ésaïe 60, verset 1. Ses portes ne seront point fermées de jour, car il n'y aura point là de nuit. On y apportera la gloire et le tribut des nations. Il n'y entrera rien qui souille, ni qui commette l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Un fleuve pur d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal, sortira du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa place, et des deux côtés du fleuve sera l'arbre de la vie, produisant 12 fruits, rendant chaque mois son fruit, et les feuilles de l'arbre seront pour la guérison des nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau y sera. Ses esclaves lui rendront leur culte, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura point là de nuit. Et ils n'auront pas besoin de lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Quelle belle, quelle magnifique, quelle glorieuse représentation de notre éternelle demeure, que sa splendeur éclaire le chemin par lequel nous nous hâtons vers elle, et qu'elle rende de plus en plus chère dans nos cœurs l'espérance de celui qui s'annonce à nous comme l'étoile resplendissante du matin, et dont la présence, tandis qu'elle nous introduit à toutes ses bénédictions, en est elle-même aussi le principal fondement.